mesdames et messieurs, à présent, je vous propose de suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditrices, auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse donc des Nations Unies en RDC, activité des composants de la MONUSCO, activité de l'équipe pays avec notamment Geneviève Delenoy pour le volet développement, Paul Boussambo-Kazadi, consultant à la FAO chargé de la sécurité alimentaire. Il nous fera donc le point sur les résultats de l'analyse de sécurité alimentaire dans plusieurs territoires en RDC. Enfin, depuis Goma, le colonel Félix Prosper Bass nous fera le point de la situation militaire du pays. Et notre invité ce jour est Scott Campbell, directeur du bureau conjoint des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Il fera pour nous la présentation du rapport sur les 6 derniers mois de la situation des droits de l'homme en RDC. Nous commençons donc tout de suite cette conférence avec ces informations de la division de l'information. La MONUSCO a remis un don de 2 véhicules anti-incendie et une ambulance aux autorités congolaises pour renforcer le dispositif des installations de l'aéroport de Goma. Cet aéroport dispose désormais d'une caserne anti-incendie. La remise officielle de ce matériel de lutte contre l'incendie a eu lieu hier, mardi, dans les locaux de la RVA à Goma. Il s'agit notamment de 2 véhicules de 9000 litres chacun, d'une ambulance et d'autres équipements. La MONUSCO a formé et prendra également en charge pour 2 ans au moins 30 sapeurs-pompiers venus de la RVA ou de la protection civile du gouvernorat préposé à ce service. Pour l'administration déléguée générale de la Régie des voies aériennes, RVA, cette dotation permettra de relever le niveau de sécurité des aéronefs dans cet aéroport de Goma. Police des Nations Unies, plus de 300 éléments de la police nationale congolaise, dont 13 femmes, viennent de bénéficier des formations spécialisées dans 3 filières différentes, police des mines, police de proximité et police de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est au terme d'une formation de 3 mois dont la clôture a eu lieu lundi 21 juillet au Centre national de formation des policiers de Mugunga dans l'ouest de Goma. La formation s'est tenue dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité initiée par le gouvernement congolais sous la facilitation de la police de la MONUSCO avec leurs partenaires, entre autres l'International Narcotic and Law Enforcement du gouvernement américain, l'IOM, l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement des Pays-Bas. Cette formation avait débuté en avril dernier pour 302 éléments de la police nationale congolaise venus du Sud Kivu, du Maniema et du Nord Kivu. 106 inscrits pour la filière police des mines, 97 éléments pour la police filière de lutte contre les violences basées sur le genre et 99 éléments de la police de proximité. Pendant 3 mois donc, ces agents ont suivi des formations techniques et professionnelles, théoriques et pratiques, dispensées par les formateurs de la PNC avec la supervision et l'accompagnement de ceux de la police des Nations Unies UNPOL. Après la dernière évaluation, 9 policiers, dont une femme, ont eu la mention distinction. 190 ont été élus, ont eu des mentions supérieures ou égales à la moyenne, et puis seulement 103 ont reçu des moyennes en dessous de la moyenne. Les 2 premiers groupes ont été décorés des brevets de fin de formation, alors que ceux n'ayant pas eu la moyenne ont juste reçu des certificats de participation. Pour le lieutenant Jean Camus, le chef du secteur UNPOL du Nord Kivu, cette formation constitue un bel exemple de coopération et de coordination entre les 5 partenaires, l'INL des États-Unis, les Pays-Bas qui ont financé donc cette formation, l'OIM qui en a assuré la gestion financière et administrative, et UNPOL et la PNC qui se sont chargés donc de la formation. Cette formation entre aussi dans le cadre du mandat de la MONUSCO et qui est donc conforme au plan quinquennal de la réforme du secteur de sécurité en RDC, a précisé M. Jean Camus. Appui à l'administration pénitentiaire, à Boutembo, l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire a contribué à continuer d'offrir ses bons offices en organisant conjointement avec les autorités nationales un atelier sur la sécurité et la gestion des prisons à Beni et à Lubero. L'objectif était de permettre au staff national de parfaire leurs connaissances et leurs compétences afin de répondre à des normes acceptables en matière de gestion des prisons. À Beni également, une session d'information et d'encadrement portant sur l'admission en prison des détenus a été organisée. À Kamina, Mahagi, Goma et Kalemi, les directeurs et superviseurs ont bénéficié d'une séance d'information sur l'article 57 de l'EERM, qui est un ensemble de règles minima concernant la violence contre les détenus afin de les dissuader de tout acte d'impunité. Enfin, le bureau genre de la MONUSCO. Le bureau genre de la MONUSCO a tenu une séance de sensibilisation hier, mardi 22 juillet 2014, pour les femmes détenues de la prison centrale de Mouzinzé à Goma. L'objectif était de faire connaître à ces femmes leurs droits et les initier aux activités sportives pour leur bien-être physique, psychologique dans cet espace pénitentiaire. Signalons que 30 femmes, dont une en grossesse et 9 accompagnées de leurs enfants, ont suivi avec grand intérêt comment une femme, bien que prisonnière, a droit à vivre dans un milieu assaini pour sauvegarder sa santé, à pratiquer le sport pour son loisir, tout en réduisant le traumatisme qui pèse sur sa santé physique et mentale. Au cours de cette session, une équipe de femmes de la 8e région militaire a formé 29 prisonnières dans une discipline sportive appropriée aux femmes appelée le Zango moderne. Voilà tout pour ce qui concerne les activités des composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite aux activités de l'équipe pays avec Geneviève Delenoy. Geneviève, bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, qu'en peut-on retenir cette semaine sur les activités de l'équipe pays en matière de développement ?
Une information émanant du PNUD qui appuie la RDC dans sa lutte contre le VIH-SIDA en aidant le gouvernement à améliorer l'environnement juridique et en renforçant les capacités de la société civile. En effet, sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits humains, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, finance totalement un projet de 82 145 dollars qui vise à instaurer un environnement juridique favorable aux personnes vivant avec le VIH-SIDA, en abrégé PVVIH, et aux personnes affectées par cette maladie. Ce projet d'une durée de 7 mois sera mis en œuvre par le PNUD, le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, le PNMLS, l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, UCOP+, et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, en acronyme ONU-SIDA. Ce projet découle des recommandations du dialogue national sur le VIH-SIDA et sur les droits humains qui s'est tenu à Kinshasa en novembre 2013. Rappelons que ce dialogue national est une première dans le pays et la région. À la fin du projet, d'ici à 7 mois, les résultats attendus sont les suivants. 10 experts formés deviendront à leur tour des formateurs, 6 à Kinshasa, 1 à Goma, 1 à Bukavu, 1 à Matadi et 1 à Lubumbashi. 180 magistrats, avocats, gardiens de prison, officiers de police et militants des droits humains seront formés sur le droit et le VIH-SIDA. 250 parlementaires seront sensibilisés sur les lois, le VIH-SIDA et les droits humains au niveau national et dans 5 provinces de la RDC, Kinshasa, le Bas-Congo, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et le Katanga. Une stratégie d'intervention en milieu carcéral sera définie. Une cellule VIH-SIDA sera opérationnelle au sein du ministère de la Justice. Le texte de projet de loi 08/11 sur les droits des personnes vivant avec le VIH et personnes affectées sera non punitif, disponible et adopté par le Parlement. Deux groupes de travail sur le droit et le VIH-SIDA seront opérationnels, dont un à Kinshasa et un à Lubumbashi. Et le ministre de la Justice participera à la conférence régionale des ministres de la Justice sur le VIH-SIDA. Un communiqué de presse est disponible pour plus de détails à la fin de cette conférence de presse. Merci.
Merci Geneviève. Pas d'informations pour l'humanitaire, spécifiquement humanitaire je veux dire. Nous avons dans la salle cependant Sylvestre Toumba Moudigaï pour des questions éventuelles. Cependant, nous allons donner tout de suite la parole à Paul Boussembo-Kazadi, consultant à la FAO, chargé des questions de sécurité alimentaire. Alors, je crois que, Monsieur Kazadi, vous allez nous faire un peu le point du dernier rapport sur la situation alimentaire dans plusieurs territoires de la RDC. Qu'en est-il ? Quelles sont les grandes lignes de ce rapport ?
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler de l'outil cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire, IPC. Nous avons l'habitude de travailler sur l'ensemble des territoires de la RDC, mais pour ce qui est de l'année 2014, le premier semestre, nous avons travaillé sur les zones dites humanitaires. C'est les zones de l'Est et nous avons travaillé sur la province du Katanga, le Maniema, les deux Kivu et aussi la province orientale. Les résultats, pour ne pas entrer dans le détail, nous avons travaillé sur 67 territoires et sur les 67 territoires, nous avons 22 territoires en phase de crise. Dans ces 22 territoires, vous trouvez 4 territoires qui sont en phase d'urgence et 18 territoires en phase de crise alimentaire et des moyens d'existence aigus. Et nous avons 39 territoires en phase 2 de l'IPC sous pression. Pour ceux qui ne le savent pas, l'IPC est composé des 5 phases. Nous avons une première phase minimale, la deuxième phase sous pression, la troisième phase crise alimentaire et des moyens d'existence aigus, et la quatrième phase urgence, et la dernière, c'est la phase famine catastrophe. Nous n'avons jamais eu cette phase ici en RDC. Pour les zones de l'Est, aujourd'hui, nous avons 4 millions de personnes en crise alimentaire et des moyens d'existence aigus. Et nous avons dit qu'il y avait des phases d'urgence dans les territoires de Pougna, dans le Maniema. Nous avons aussi, dans le Katanga, les territoires des Mitouaba, Manono et aussi les territoires des Pueto. Pour entrer beaucoup plus en détail, c'est pas tous les territoires qui se trouvent en phase d'urgence. C'est quelques portions des territoires. Et vous constaterez que dans ces portions des territoires, c'est des populations qui se déplacent, ils abandonnent leur zone de moyens d'existence. Et vous allez constater aussi que ceux-là qui se déplacent, et avec des violences souvent, ils abandonnent tout. Et ils se retrouvent des fois dans des situations très compliquées, dénutrition, et ils n'ont pas accès à la nourriture en abondance. Parce que la sécurité alimentaire, il faudrait qu'il y ait à manger pour tous, en tout temps et sans interruption. Et nous avons mis aussi un accent sur les zones frontalières de pays comme les Soudans du Sud et aussi des zones frontalières à la Centrafrique. Parce que ces zones frontalières, ils reçoivent des réfugiés qui viennent des différents pays. Et ce sont des zones qui nécessitent une attention particulière. Parce que souvent, ces réfugiés qui arrivent dans des villages déjà affamés, des villages à problèmes, ils viennent avec leurs problèmes dans ces villages et ces populations qui les accueillent, ils se retrouvent aussi beaucoup plus en problème lié à la sécurité alimentaire qu'avant l'arrivée de ces réfugiés-là. Je pense que c'est les gros de nos analyses sur les zones de l'Est. Et nous sommes disposés et disponibles à la fin de cette conférence. Nous allons vous donner notre fiche de communication et vous allez voir aussi la cartographie IPC, donc dite du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire. Et on est disponible pour toutes les questions éventuelles. Je vous remercie.
Merci bien, Monsieur Kazadi. Sur ce survol de l'analyse de la sécurité alimentaire dans plusieurs territoires de RDC, je rappelle que vous êtes consultant en charge justement des questions de sécurité alimentaire à la FAO ici en RDC. Nous passons tout de suite à Goma, direction Goma, où nous allons rejoindre le colonel Félix Prosper Basse pour un point de la situation militaire. Colonel, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Charles. Bonjour Charles et bonjour à tous. Donc, un bref survol de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous commençons, comme d'habitude, par l'ouest de la RDC, où la situation a été relativement calme dans les autres provinces de l'ouest de la République démocratique du Congo, sauf à Kinshasa, où des coups de feu ont été entendus mardi hier, en début d'après-midi, au camp militaire Tchatchi. En effet, selon les informations reçues, un groupe d'individus non encore identifiés, armés de fusils et de machettes, a voulu faire irruption dans l'enceinte du camp Tchatchi, siège du ministère de la Défense, pour y mener des activités subversives. La prompte réaction des forces de sécurité congolaises a permis de neutraliser les assaillants et de ramener le calme dans la ville de Kinshasa, où une panique généralisée avait été observée. Toutefois, cependant, le bilan de ces affrontements reste encore inconnu. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises maintiennent la pression militaire contre les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur et la Ré dans les districts de Ba et Haut-Wélé. En Ituri, des troupes gouvernementales, soutenues par les casques bleus, poursuivent leurs opérations visant à contrer les exactions des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI perpétrées contre les populations civiles implantées dans les localités situées au sud du territoire d'Iro. Au Nord Kivu, l'environnement sécuritaire a été marqué par la reprise des opérations Sukola 1, menées dans le territoire de Beni par l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO contre les éléments résiduels de l'Alliance des forces démocratiques ADR. En effet, l'armée gouvernementale mène présentement des opérations de bouclage et de ratissage dans les régions conquises. Le 20 juillet 2014, 13 rebelles de l'ADF ont été tués par les FRDC au cours des combats dans la région de Kouélé, située à 25 km au sud de Kainama, et 12 armes AK-47 récupérées, ainsi qu'un rebelle capturé. Durant la semaine écoulée, dans le cadre du processus de désarmement volontaire des rebelles des FDLR, les statistiques font état de 290 pensionnaires, dont 103 combattants et 187 membres des familles, admis à ce jour au camp de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration DD3R de la MONUSCO, si à Kanyabayonga. Donc, au chapitre des redditions, nous avons enregistré pour la semaine écoulée 10 éléments en provenance des différents groupes armés, notamment 9 des forces démocratiques de libération du Rwanda et 1 du groupe Maïmaï Tchekan Douma Défense du Congo. Le Katanga a été marqué, quant à lui, par les atrocités commises par la milice Baloubakat contre les pygmées dans les localités situées au sud du territoire de Kabalo, mais également par des exactions perpétrées par les Maïmaï Bakata Katanga de Gédéon au sud du territoire de Manono. En effet, les rapports concordants font état d'atrocités, de meurtres systématiques et de viols en masse commis contre les pygmées par des miliciens Baloubakat dans les localités situées au sud du territoire de Kabalo. Ces incidents ont provoqué le déplacement d'environ 700 pygmées vers Kabalo centre. Suite à cette menace sécuritaire rapportée dans cette partie du pays, les autorités territoriales y ont déployé des unités FRDC et de la PNC, précisément à Moussimba, dans le but de mettre un terme à ces atrocités et protéger les populations locales. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1896 armées, dont 619 nocturnes, et fourni 36 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Colonel Bass, merci. Comme je vous l'annonçais au début de cette conférence de presse, notre invité ce jour est M. Scott Campbell, directeur donc du Bureau conjoint des Nations Unies chargé des droits de l'homme à RDC. Nous sommes à mi-parcours de l'année 2014 et ce faisant, le Bureau conjoint des droits de l'homme ici à RDC a choisi de nous faire un bilan non pas mensuel mais semestriel. Alors, M. Campbell, quels sont les grands faits saillants que l'on peut retenir de ce rapport semestriel?
Bon, merci beaucoup Charles, chers auditeurs, auditrices. Ce qu'on peut retenir, c'est de janvier à juin 2014, nous avons enregistré 1214 violations de droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la RDC et on fait un peu plus de 4000 victimes, car il y a des cas de violation qui concernent plusieurs victimes. Ce qui représente une moyenne d'environ 200 violations par mois que notre bureau a documenté. Ceci représente une légère baisse par rapport au nombre de violations enregistrées pour la période de juillet à décembre 2013. Par contre, il y a une augmentation en ce qui concerne le nombre de victimes par ces mêmes cas que nous avons documentés. Les types de violations de droits de l'homme les plus documentés, il s'agit globalement des atteintes au droit à l'intégrité physique, donc les cas de torture, les cas de violence sexuelle, des atteintes au droit à la liberté et sécurité de la personne, donc là principalement des cas d'arrestation arbitraire ou des enlèvements par les groupes armés, des atteintes au droit à la propriété, des cas d'extorsion, de pillage, etc. Et là on voit le plus grand nombre de victimes. Nous avons documenté plus de 1300 victimes de ce droit à la propriété. Et finalement, des atteintes au droit à la vie, qui est bien sûr le droit le plus fondamental. Sur le plan géographique, ce que nous pouvons retenir, c'est que les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Oriental sont les provinces où on a enregistré le plus de violations des droits de l'homme pendant ces premiers 6 mois de 2014. Et c'est là, en termes global, où nous avons enregistré à peu près 3/4 des violations, de toutes les violations sur l'étendue nationale, on trouve à peu près 75% des cas ou des victimes dans ces 3 provinces affectées par le conflit. En ce qui concerne la responsabilité, nous avons une responsabilité partagée entre les agents étatiques et les groupes armés, selon ce que nous avons pu documenter. Nous avons à peu près 49% du nombre total de victimes enregistrées pour la période sous examen qui sont attribuables aux agents étatiques, donc principalement l'armée congolaise et la PNC et l'ANR. Ceci représente une légère baisse aussi à ce que nous avons enregistré pendant les 6 mois précédents, donc le dernier semestre de 2013. En même temps, et lorsqu'on voit de près un peu la responsabilité parmi les agents étatiques, nous voyons les militaires des FARDC en premier lieu, qui ont été responsables de 357 violations des droits de l'homme pendant les 6 mois écoulés. Lorsqu'on voit de près les groupes armés, on voit d'abord qu'ils sont responsables de un peu plus des moitiés, disons, des cas où pour les victimes de ces violations, un peu plus de 2000 victimes, notre bureau a pu enregistrer, dû aux actes commis par les groupes armés. Et nous voyons, sur le premier lieu de responsabilité, les groupes Maïmaï tous confondus. Bien sûr, ils sont plusieurs groupes Maïmaï à travers l'Est et qui détiennent cette responsabilité principale parmi tous les groupes armés. Lorsqu'on voit l'Ouest du pays, la plupart des violations des droits de l'homme enregistrées entre ces 6 mois ont été commises par les agents de la PNC, chose qui est concrètement 201 violations qui étaient documentées pendant cette période. Je noterai sur la question de violences sexuelles, notre bureau a enregistré 256 cas de victimes de violences sexuelles. Bien sûr, ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble des cas de violences sexuelles, mais nous ne notons que des cas que nous avons confirmés, documentés nous-mêmes, en sachant que le nombre réel est beaucoup plus élevé. La plupart de ces victimes ont été dans les provinces orientales, le Nord Kivu, Katanga et le Sud Kivu. Et je note que ce chiffre représente une baisse par rapport aux 6 mois précédents, disons aux années passées, 2012-2013. On a vu une baisse assez significative en ce qui concerne le nombre de victimes de violences sexuelles. Et dernièrement, en ce qui concerne la situation, je noterai que pendant le premier semestre, notre bureau a documenté au moins 34 atteintes à l'encontre de 26 défenseurs des droits de l'homme, 12 journalistes et 35 opposants politiques. Bon, face à cette situation globale, les autorités nationales ont pris des actions très importantes à noter. Je ne soulignerai qu'une chose, et c'est une augmentation de l'activité judiciaire concernant ces violations des droits de l'homme par rapport à la période de juillet à décembre de l'année passée. Pendant les derniers 6 mois, nous avons enregistré 124 personnes condamnées pour les crimes constituant les violations des droits de l'homme dans tout le territoire de la RDC. Ce n'est pas exhaustif, mais je noterai en plus que dans les provinces de Nord Kivu, 56 personnes auraient été condamnées pour des crimes constituant des violations des droits de l'homme, ce qui représente une augmentation significative de l'activité judiciaire dans cette province depuis la défaite du mouvement de M23 à la fin de l'année passée. Donc il est capital de reconnaître ces efforts qui sont faits pour faire face à une situation évidemment qui demeure sérieuse. Je termine en notant 3 événements sur le plan international, mais par rapport à la situation des droits de l'homme en RDC, qui sont à souligner. D'abord, à Genève, il y a eu un dialogue de haut niveau sur les leçons apprises et les défis persistants dans la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Et ça, c'était le 25 mars devant le Conseil des droits de l'homme, où Son Excellence le ministre de Justice et des droits de l'homme et Son Excellence le ministre du Genre aussi ont participé devant cet haut cadre. Nous avons publié un rapport sur les avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité de violences sexuelles en RDC, qui était lancé à New York dans une conférence de presse faite par 3 sous-secrétaires généraux des Nations Unies, chose qui était un premier pour les Nations Unies. La deuxième chose aussi, à Genève, la RDC a eu toute l'attention du Conseil des droits de l'homme. Le 29 avril, la situation des droits de l'homme en RDC a été examinée par le Conseil des droits de l'homme. Et le rapport qui est produit chaque quatre ans et demi, était suivi par retransmission directe ici dans cette salle lorsque le ministre de la Justice et Droits humains a présenté le rapport sur la RDC devant le Conseil des droits de l'homme. Et ce rapport contient 29, le rapport émis par le Conseil des droits de l'homme contient 229 recommandations dont 190 ont été acceptées par la RDC et qui vont créer la base pour une éventuelle feuille de route pour le gouvernement, les acteurs internationaux et les acteurs nationaux à suivre pour améliorer la situation des droits de l'homme dans les quatre années qui viennent. Je termine juste en notant aussi une autre initiative très importante qui a eu lieu pendant ces 6 mois, et c'était une initiative par, encore une fois, le ministère de Justice et Droits de l'Homme, en tête le vice-ministre des Droits humains, avec la police nationale, la PNC, et la police des Nations Unies, qui ont procédé à des visites des lieux de détention de la ville de Kinshasa. Au cours du mois de mai, je pense que vous avez tous suivi cette tournée très importante. Ces visites se sont étalées sur 1 mois, ont eu pour but d'évaluer les procédures d'arrestation et les conditions de détention dans les différents centres de détention de la ville de Kinshasa. Alors, au total, à la fin, 62 centres de détention, 627 détenus ont reçu la visite de la vice-ministre et des autres acteurs, le PNC, notre bureau, l'auditorat général. Et à l'issue de ces visites, 99 personnes détenues sans aucun fondement légal ont été libérées. Et comme suivi durable, le vice-ministre a mis en place avec la PNC, l'auditorat général, avec l'appui des Nations Unies, un comité de suivi qui va faire les visites d'une manière régulière. Ce comité, la semaine passée, a déjà commencé son travail. Je vous remercie.
Merci bien, Scott